ce son, cet esprit, ce phénomène, c'est DJ Body alias Sophie Anctil. Bonjour Sophie, les chouettes s'en va sur RCC. C'est la première
oui,
de 2024. Bonne année, bonne santé.
Bonne année, merci. Bonne année à Calvi, à la Balagne, à toute l'équipe d'RCC. Et je suis ravie de démarrer avec cette chanson qui est une chanson tirée d'une cérémonie cacao. Alors le cacao, c'est une plante qui ouvre le cœur, donc elle est en espagnol et je vous laisse bouger, ouvrir votre cœur, ouvrir les bras, vous mettre en mouvement pour cette nouvelle année.
Le damos gracias al corazón del fuego. Le damos gracias a los cuatro vientos que respiramos. Le damos gracias a nuestra luz interior.
Sophie Antiel. Les choix de Zambala.
Oui, les choix de
Zambala. La première de 2024.
Alors, voilà, pour ce jour de l'an.
Justement,
là, pour,
oui. Voilà, tu as des choses à nous dire.
J'ai des choses à vous dire parce que donc j'ai un livre qui est très sympa. C'est un calendrier païen. Donc, j'aime bien aller voir les significations païennes. Et donc, il est dit qu'en fait, le jour de l'an se célébrait déjà à Babylone, 2000 ans avant Jésus-Christ, et c'était fixé à fin mars. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette date du 1er janvier s'est fixée au 1er janvier. Donc, au départ, c'était fin mars. Voilà. Et en fait, pourquoi? Parce que c'était un hommage au dieu de l'agriculture et à la déesse de la fertilité. Donc en fait, on plaçait sous une influence positive les récoltes à venir. Et du coup, c'était des festivités qui se prolongeaient pendant 11 jours. Voyons, ça a bien changé. Donc 11 jours de fête, et ça se terminait par des défilés, par des danseurs, des musiciens. Et du coup, chacun profitait de la célébration de ce cycle nouveau pour s'adonner à de plantureuses agapes copieusement arrosées. C'est sûr que voilà, l'Antiquité a été, enfin pas l'Antiquité, mais cette période était connue pour ce côté romain là, très très comment, expansif sur la façon de célébrer. Et l'idée principale de cette fête, c'était aussi de chasser les mauvais esprits et d'oublier les tristes événements passés pour se tourner vers un avenir et appeler des forces supérieures pour garantir essentiellement la fertilité du sol. Ensuite, on a eu au Moyen-Âge, l'Église qui donc a combattu la célébration du Nouvel An avec un certain succès. Et du coup, la date, elle restait un peu fluctuante, en fait, dans différents royaumes, mais même à l'intérieur de chaque pays. Donc, ce qui n'a pas favorisé la pérennité de la célébration. Donc, le jour de l'an tombait un coup le 1er mars, jusqu'au 8e siècle, puis passa au 25 décembre les deux siècles suivants, pour se fixer le 25 mars dès le début du 11e siècle. Et le samedi saint en Île-de-France. Donc finalement, c'est grâce à Charles IX qui fixa obligatoirement le début de l'année au 1er janvier en 1564.
Merci Charles.
Voilà. Merci Charles. C'est pas Charles Quint, lui, je sais plus. Hein. Moi, je suis pas très bonne en histoire. Faudrait que je vérifie. Enfin, c'est le 9 en tout cas. Voilà. Mais quelle que soit la date qui a été fixée, en fait, la nouvelle année a toujours été saluée par des réjouissances. Donc d'abord en signe de renouveau. Mais aussi pour symboliser une sorte de renaissance appliquée à soi-même. Donc dès lors, toutes les croyances restent attachées à cette période du passage. Donc c'est vraiment, moi je dis toujours, bon passage, donc le passage, de faire un passage vers quelque chose de nouveau, vers ce cycle nouveau. C'est aussi attirer la chance et vivre une année riche en joie, amour, argent. Alors, on a plusieurs méthodes pour ça. Souvent conseillé au 12e coup de minuit d'embrasser une personne du sexe opposé, si possible sous le gui, et casser volontairement son verre. On disait aussi de porter des souliers et des vêtements neufs, de faire des crêpes. Et enfin, celui qui jetait en l'air sa chaussure droite au réveil du 1er janvier avait toutes les chances de se marier dans l'année. Donc tous les célibataires, voilà, si vous voulez faire une expérience, jetez votre chaussure droite et regardez comment elle retombe. Donc si la dite chaussure retombait à l'endroit, on se mariait dans l'année. Voilà. Alors par contre, on disait que celui qui avait les poches, placards ou porte-monnaie vides ce jour-là risquait fort de rester pauvre pendant les 11 mois suivants. Bon. Donc, parmi les situations à éviter un 1er janvier, de balayer, donc faites pas le ménage, hein, jeter de l'eau même sale, et donc de faire la lessive, c'était pas conseillé. Et enfin, il y avait une forte croyance poétique qui suggérait d'ouvrir un court moment la porte de la maison, juste avant l'instant fatidique des 12 coups, afin d'inciter les mauvais esprits à s'éclipser et du coup de partir dans la nature, et ils ne pouvaient plus médire de l'année écoulée. Donc voilà, on retrouve toutes ces croyances anciennes qui sont maintenant de toute façon une bonne raison pour faire la fête le 1er janvier. Je trouve ça toujours intéressant de voir d'où vient au départ l'origine, parce qu'il y a toujours un lien entre les fêtes païennes, ensuite les fêtes chrétiennes, et comment voilà, ça s'est superposé, ça s'est ancré aujourd'hui chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on va se souhaiter pour cette nouvelle année?
Qu'est-ce qu'on va souhaiter?
Alors, il y a toujours cette liste de bonnes résolutions. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une émission qui... Je vais vous parler, en fait, d'un auteur qui est mort maintenant, qui s'appelle Louis Sansa, et je suis en train de terminer son livre qui s'appelle La Voix du Sentir, que je recommande vivement, fortement. C'est vraiment une pure merveille, ce livre. C'est très facile à lire. Il y a plein de petites pépites dedans. Et juste pour d'abord parler de Louis Sansa, qui il était, donc il est né en Argentine et il a été initié dès son enfance au chamanisme, puis il a été formé par 11 maîtres, hommes et femmes, hein, de différentes traditions, donc dans l'hermétisme chrétien, dans le zen, dans l'hindouisme, dans le soufisme, dans le chamanisme toltèque. Et il a toujours refusé toute étiquette ou classification. Il ne s'est jamais laissé enfermer dans l'image d'un maître spirituel. Il a publié plusieurs livres, dont le quatrième royaume, la nuit des chamans et le mystère du Nagual, aux éditions Relié. Alors la voie du sentir, c'est parce que je trouve que c'est chouette de revenir à son corps. Vous savez, avec le tantra, on dit que c'est une voie spirituelle qui passe par le corps, et du coup c'est pour ça que je peux vraiment me relier à Louis Sansa, parce qu'il parle de ce temple, de ce corps qui nous apprend plein de choses, et où des fois on est vraiment déconnecté de nos sensations, et que si on commence à retrouver nos sensations corporelles et à les écouter, bah c'est un vrai enseignement. Donc on sait bien hein, que quand la tête elle décide, elle veut faire des choses, elle donne des directions, mais si le corps il a pas envie, par exemple ton estomac il se met en off, il y a plus rien qui marche. On dit que c'est le deuxième cerveau. Moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt le premier, parce que si ça marche pas au niveau de ton estomac, le cerveau il marche plus, alors que tu peux avoir le cerveau qui marche, tu peux avoir en fait le cerveau qui marche pas et tout le reste qui marche. Alors pour commencer, moi, j'ai toujours, c'est de s'aimer, de vraiment s'accepter tel qu'on est, de s'apprécier sous tous ses aspects. Et j'ai envie pour cela de vous partager une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « M'envoyer des fleurs ».
Ah, ça c'est pas mal comme ouais. Titre.
J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain. D'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être. J'ai décidé de me regarder, de m'éplucher dans le miroir, de dévoiler tous mes atouts, de m'adorer de bout en bout. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi. J'ai décidé de me désirer, de m'inventer des sensations, de crouler sous les émotions.
Ben voilà, laissez t'envoyer des fleurs, Sandrine Kiberlin.
Ouais, c'est chouette, j'aime bien, je trouve ça très frais, il y a un petit côté, j'aime bien sa voix, et puis voilà, je trouve que c'est beau de pouvoir, on dit toujours, on attend que l'autre nous offre des fleurs, mais en fait, n'attendez pas, faites-vous plaisir là tout de suite, envoyez-vous des fleurs, parce que c'est quand même vous, la personne la plus importante dans votre vie, et si vous ne vous aimez pas complètement et que vous prenez pas soin complètement de vous, comment pouvez-vous juste prétendre prendre soin des autres si vous êtes déjà pas capable de prendre soin de vous, quoi? Donc c'est une réalité, et souvent on oublie parce que c'est tellement évident de donner, de se prendre soin, voilà, des enfants, de la famille, de son conjoint, de ses amis, etc. Mais franchement, c'est toi la personne la plus importante pour toi. Donc rappelez-vous ça, c'est vraiment une belle mille choses à se mettre dans la tête pour ce début d'année. Comment je peux prendre soin de moi? Comment je peux m'occuper de moi? Et c'est, ça veut pas dire être égoïste, loin de là, hein. Moi, je pensais que, ah oui, ça c'est un peu égocentrique, on pense qu'à soi et tout. Non, non, c'est pas ça, c'est comment je prends soin. Voilà, donc c'est le soin qui est important. Alors je vous ai donc dit que j'allais vous parler de la voix du sentir de Louis Sansa. Alors j'aime bien ce qu'il y a un chapitre dans ce livre où il parle d'une nouvelle genèse. Alors moi je suis toujours curieux de quand quelqu'un a traversé comme ça différentes. Il est adogmatique, hein, donc il ne rentre pas ni voilà, même s'il a étudié l'hermétisme chrétien, le zen, l'hindouisme, le soufisme, le chamanisme, etc. Il ne veut pas être enfermé dans une étiquette particulière, mais c'est juste dans la voie du sentir et du ressenti. Alors il dit que voilà, il y a plusieurs légendes chamaniques qui parlent de l'apparition impensable, inconcevable de l'être humain sur notre planète. Et donc il y a des vieux contes orientaux qui véhiculent exactement la même connaissance. Alors je vais vous parler un peu de cette vision de la nouvelle genèse. Donc vous allez commencer par imaginer un espace vide, sans devant, ni derrière, sans haut ni bas, sans droite ni gauche. Un espace sans espace, un espace sans temps. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne sent rien, on ne peut rien toucher ni goûter. C'est le néant. Et dans ce néant naît un mouvement, puis ce mouvement devient un désir. Et ce désir produit une idée. Au commencement, le désir de Dieu fut de créer. Le désir appartient à la dimension féminine, captivante, fécondante, donnante, qui abandonne ce qu'elle est pour donner la vie à l'autre. Ce désir tourbillonnant de plus en plus vite, crée en son axe, en son centre, un axe de haut en bas. Deux lois se mirent en mouvement, l'une centripète et l'autre centrifuge. L'une pousse vers l'extérieur, l'autre capte vers l'intérieur. C'est comme un inspire et un expire, et cela, instant par instant. C'est dans cette déflagration, tournoyant à toute vitesse, à la jonction de la ligne de gravitation, de l'intensité et de l'ampleur, que l'être humain naquit. C'est beau quand même, hein. Alors on va continuer, je vais vous le faire par partie, je vais vous tenir en haleine, et pour cela je vais vous mettre une petite chanson que j'aime bien, qui s'appelle Real Roots, donc les vraies racines, nos racines profondes. Donc laissez-vous sentir aussi parce que vous venez d'entendre, savoir si ça résonne en vous, s'il y a quelque chose où vous connectez, ou en tout cas vous sentez que c'est juste ces forces d'alignement entre le haut, le bas, ou de partir de rien et d'avoir cette créativité qui vient faire naître en fait un désir. C'est très intéressant de voir aussi la créativité, le désir, c'est féminin, donc voilà cette énergie féminine du départ. On en reparle après. Vas-y, mets du mouvement en toi, si cette musique te parle, bouge ton bassin, réveille ton énergie, ta vitalité, respire, danse.
Alors, rythme endiablé, drums de beats.
Ouais.
On se régale là.
Ça fait du bien. Mais ça, c'est vraiment.
Là, c'est début d'année.
D'aller chercher voilà, la racine, d'avoir la base. C'est comment mettre en route cette vitalité.
Regarde, je danse en même temps que je te parle.
Qui se loge dans le bassin. Donc, c'est là aussi le berceau de la création. Hein. Je veux dire, le bassin, c'est là où on va créer un être humain. C'est vraiment ce premier chakra et ce deuxième chakra. Donc, sa racine et le deuxième qui est relié à l'eau et à la créativité. Où sont aussi toutes les parties reproductives. Donc c'est bien de sentir aussi cette vitalité d'où elle part. Et bon, c'est vrai que dans le christianisme, on a souvent entendu hein, que tout ce qui était en dessous de la ceinture, c'était mal, c'était pas bien. Mais c'est aussi pourquoi pour couper en fait de notre racine et de notre vitalité, parce que c'est beaucoup plus facile de manipuler les gens. Excusez-moi, hein, mais j'adore hein, la chrétienté. Enfin, j'ai pas du tout de la Bible. Voilà, j'ai rien contre ça. Ce que j'aime moins, c'est ce qu'en ont fait les hommes pour pouvoir avoir le pouvoir. Donc l'Église pour moi est un grand manipulateur. Et voilà, de faire acheter le paradis aux pauvres pour s'enrichir sur leur dos, voilà, je trouve que c'est un peu écœurant, voilà, pour dire, mais j'ai rien contre. Mais bon, ça n'empêche pas de penser, quoi. En tout cas, de constater, de voir. J'étais à Rome il y a pas longtemps avec ma fille, et elle me dit, maman, je veux voir le Vatican. Elle me dit, oh, qu'est-ce que c'est beau. Et moi, en fait, je me suis sentie, mais écœurée par toute cette richesse ostentatoire.
C'est très impressionnant, ouais. C'est vrai. Ouais.
Mais quand tu penses, il y a des gens qui meurent de faim de partout dans le monde, tu vois, et que c'est un truc où c'est vraiment, mais c'est ostentatoire, c'est presque indécent, quoi. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est la sensation aujourd'hui avec la maturité de 50 ans passés.
Merci.
Voilà, mais en tout cas c'est très beau. Voilà. On va reprendre la voie du sentir, n'est-ce pas? Voilà, parce que bon, bah on sent. Hein, le problème c'est quand on ouvre aussi à ses voix, on sent tout. Alors qu'est-ce que dit Louis Sansa sur ce quand l'être humain naquit? Donc là on est en plein dans la genèse. Hein. Donc vous voyez, ces légendes nous disent que ce qui ne fut au début qu'une idée, c'est-à-dire de créer une créature aussi complexe, aussi parfaite, aussi impensable que l'être humain, allait être en fait le résultat d'un très long processus de formation. Car cette idée divine de la création humaine allait devoir passer pendant des périodes de temps immenses par des états différents, allant du minéral au végétal, puis à l'animal, puis à l'humain, et ensuite au divin. Et pourquoi pas être capable d'aller encore plus loin? Ces légendes viennent de la mémoire mère, c'est-à-dire de la matrice d'où sortent toutes les mémoires. Alors ça, je fais un petit aparté parce que ces mémoires, on parle des mémoires akashiques, on parle dans le champ informationnel aujourd'hui en quantique que dans le vide, dans ce qui nous entoure. En fait, il y a toute la mémoire de l'univers. Moi, je travaille beaucoup avec les mémoires cellulaires, donc c'est sûr que la mémoire mère me parle. Donc avec d'autres mots, ces légendes disent qu'au commencement des temps fut une mémoire d'amour qui renonça à ce qu'elle était pour créer l'autre qui n'était pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu opéra un renversement complet pour sortir de son immanescence et se déverser dans la transcendance. Donc je répète, Dieu opéra un renversement complet pour sortir de son immanescence et se déverser dans la transcendance. Il cessa d'exister en tant que mystère et se donna dans une fleur, dans une pierre, dans un visage, dans un espace, dans le monde manifesté qui n'est autre que sa propre expression. Et j'aime en fait cette vision de dire que le paradis, il n'est pas dans un espace après la mort, mais qu'il est là, que tout ce qui est autour de nous est la création du divin et qu'en fait cette divinité qui existe en nous existe aussi dans toute chose et que si on commence à le regarder le monde à partir de cet espace-là, du coup on le voit d'une autre façon. Cette mémoire d'amour, je l'appelle aussi le principe premier, l'unité, l'un. Les chrétiens l'ont appelé père. Ce principe est double, il est à la fois mâle et femelle. Dans la Chine ancienne, on l'a nommé Tao. Et dans le Tao se trouvent réunis le principe masculin Yang et le principe féminin Yin. Ce principe féminin, c'est la partie cachée de Dieu, la partie inconnue et insondable de lui-même, sa partie concave. C'est l'espace dans lequel Dieu a généré la forme. Dans la genèse du monde, cette partie créative, féminine, de Dieu ne peut que précéder sa partie masculine, qui est la partie exécutive convexe. C'est pour cette raison que ces légendes nous disent qu'au commencement des temps, Dieu créa la femme et de son ventre, elle enfanta l'homme, c'est-à-dire que le monde masculin apparut dans le monde féminin. Cela ne peut pas être l'inverse. Il faut être d'une sacrée mauvaise foi pour pouvoir imaginer que Dieu commença par créer l'homme et ensuite seulement la femme. Même si c'est un mythe, même si c'est une image, c'est d'une telle absurdité. Le masculin ne peut pas venir en premier, c'est impossible. La partie féminine qui est créative, qui génère et qui précède la partie exécutive, c'est elle, la matrice, le lieu de fécondation. Et là, je ne parle pas seulement d'un point de vue biologique. Vous ne pouvez pas peindre un tableau avant que votre partie féminine en ait capté le désir ou l'inspiration. C'est seulement après avoir reçu cette intuition que la partie masculine pourra exécuter le tableau, pas avant. D'abord, tu as l'envie de créer et ensuite tu vas faire. Vous voyez, c'est important de clarifier certaines choses parce que ces images, ces mythes continuent à graviter en nous. Donc on va continuer maintenant avec une chanson que j'aime beaucoup et je continuerai à vous parler des principes yin et yang ensuite, qui est « My body is my house », donc vraiment de considérer que son corps, c'est son temple.
Eh ben oui, c'est en direct, c'est sur RCC avec Sophie Anctil.
Mais oui, alors...
La première de l'année,
la première 2024. De l'année, pour amener vers la voie du sentir, donc mon corps c'est ma maison, mais oui bien sûr,
C'est quoi?
C'est... ça continue à parler, là, t'es pas compris.
C'est pas grave, il parle, voilà, ça y est, voilà, il a fini de parler.
Non, mais je vais continuer, du coup, sur Louis Sansa, parce que j'aime beaucoup la façon dont il amène de façon très simple, mais en même temps très claire.
Il est sensationnel.
Ouais, sa perception.
Oui,
et en plus, l'apprentissage, parce que ça, c'est vraiment un livre qui a été, c'est les enseignements, en fait, de Louis Sansa qui ont été réunis par Robert Emery. Et Robert Emery, c'est un psychologue clinicien de formation et écrivain qui a passé une vingtaine d'années auprès de Louis Sansa, donc jusqu'à la fin de sa vie. Donc il a enregistré ce qu'il disait, il a passé beaucoup de temps avec lui. Et en fait, ça, c'est un livre qui est sorti après sa mort, mais qui est vraiment, vraiment complet. Hein.
Moi, référence.
Ah ouais, moi, vraiment, c'est si vous avez un cadeau à vous faire là dans les jours.
Après Noël.
Après Noël, voilà, et que vous avez envie de plonger un peu plus en vous-même et dans la compréhension de cette voie du sentir, je vous le recommande fortement. Alors on revient sur les deux principes. Yin et Yang, qui sont des réalités sur le plan cosmique, mais aussi dans l'être humain. Donc c'est clair, tout est régi par ces forces de dualité. Hein. On parle de dualité, nous vivons dans un monde duel, et peut-être que en effet, le chemin, c'est de retrouver cette unité perdue. Alors, ils étaient au départ parfaitement équilibrés, mais l'homme de pouvoir et de savoir mental les a peu à peu séparés. Progressivement, le Yin, le féminin, écrasé, n'étant pas nourri, a diminué, tandis que le yang, le masculin, n'a pas cessé de grandir. Aujourd'hui, nous avons un masculin extrêmement puissant, énorme, et un féminin tout petit. L'homme est séparé de la femme et la femme est séparée de l'homme. Ils sont unis par une force d'attraction biologique et sexuelle, mais il n'y a plus le Tao autour d'eux. C'est pour cela qu'il est nécessaire de réintroduire dans l'être humain afin que l'homme contienne la femme et que la femme contienne l'homme. Et ça, c'est vraiment important de retrouver cet équilibre. Moi, j'aime beaucoup, quand je travaille avec des hommes ou des femmes, j'aime beaucoup trouver cet équilibre. Et souvent, on a beaucoup de femmes qui sont yang aujourd'hui, mais parce que justement, il n'y a plus ce contenant de l'homme. Au départ, l'homme a vraiment dominé la femme, et aujourd'hui la femme elle revient en première ligne, elle revient devant la scène dans sa toute puissance, mais elle a tendance du coup à écraser l'homme aussi. Donc le déséquilibre perdure, mais avant d'aller plus en avant, il faut aussi encore clarifier que les religions ont amené et provoqué vis-à-vis de la femme. Le péché originel n'existe pas. Désolé, voilà, si vous y croyez, ben en fait Louis Sansa, il dit qu'il n'existe pas. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, parce que s'il existe un péché, et peut-être qu'il en existe en effet, c'est d'avoir justement introduit la peur dans l'être humain. Ce qui est grave, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type de peur, il s'agit de la peur d'être. Lorsque l'enfant naît, il sort d'un monde dans lequel régnait l'unité, car le ventre de la mère était un Éden idyllique. Là, il n'y avait pas de séparation. Il était protégé, nourri, il n'avait ni pensée, ni tentation, ni vouloir, ni pouvoir. Il était dans un état de plénitude. Lorsqu'il est expulsé par le vagin de la femme, il chute vers le monde et entre dans le multiple. Mais cette chute n'a rien d'un drame. C'est le mystère de Dieu qui s'incarne dans l'homme. Dieu voulait connaître son humanité, et ce Dieu merveilleux, amoureux, a renoncé à sa déité pour entrer dans le multiple, pour connaître son ampleur dans la temporalité. Il a donné la vie à l'homme, il lui a légué l'univers, la galaxie, les planètes. C'est un cadeau d'une magnificence, d'une générosité, d'une bonté totale. Dieu renonce à lui-même et il se déverse dans le manifester. Ce n'est pas une chute, c'est Dieu qui veut goûter le monde qu'il a créé. C'est la même chose avec les enfants. Eux aussi veulent goûter le monde qu'ils découvrent. Lorsqu'un petit enfant touche une pomme, il ne l'amène pas à son cœur ou à son oreille. Il ne me demande pas non plus qu'est-ce que c'est. Non, il la porte à ses lèvres, il la goûte. Il goûte pour connaître. Pourquoi l'enfant porte-t-il tout à sa bouche? Parce que dans la bouche, il y a le palais. Et le palais, c'est le lieu de la résonance du cervelet, le dixième chakra, là où se trouve le cerveau primitif, archaïque, là où le péché n'existe pas. Là où toute chose finit et commence, là où toutes les mémoires se renouvellent pour nourrir le corps de l'âme, là où il n'y a pas de séparation entre le macrocosme et le microcosme. C'est là que gît le mystère de Dieu qui se fit homme afin de connaître son humanité. Vous voyez, il n'y a jamais eu de péché. il n'y a jamais eu de chute. Nous avons été créés pour devenir des explorateurs de la saveur de Dieu. Et quand on est cet explorateur-là, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour expier ou se repentir de je ne sais quel péché. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour échapper au châtiment ou pour monter ou mériter le ciel. On devient un butineur de la vie. Et comme les abeilles qui butinent le nectar des fleurs, on butine la terre, l'eau, le goût, les odeurs, les visions. Et après, on offre tout cela à la mémoire de l'âme. Parce que l'âme est une cavité à l'intérieur de vous, qui se nourrit de choses qui ne sont pas conceptuelles. Et dans l'âme, il n'y a pas non plus de crucifixion, de mea culpa, de punition ou de pénitence. Le plus grand péché commis par les religions, c'est d'avoir séparé le corps de l'esprit. Je l'ai répété mille fois. Cela a produit une dichotomie monstrueuse dans l'être humain, parce que l'esprit et la matière ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Ils sont fondus l'un dans l'autre. Alors pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'en cultivant les sens, vous allez provoquer le désir, et le désir déstabilise la raison. Et si la raison est déstabilisée, on ne peut plus la conditionner. C'est une histoire de pouvoir. Alors, voilà.
Bravo.
Voilà. Moi, je le dis dans des façons un peu plus raides. Je trouve beaucoup, beaucoup plus doux la subtilité de Louis Sansa.
Oui.
Merci pour cela. Je trouve ça magnifique comment...
Louis Sansa, sensationnel.
Louis Sansa, sensationnel. Ansa. Alors, on va
Ansa,
continuer.
Ansa, pardon.
Ansa,
ah,
A-N-S-A.
Ah oui, Louis Sansa, d'accord. Tu
Louis
fais la liaison.
Ansa. Il y a un S à Louis. Donc on va continuer un petit peu de musique là pour digérer ouais. tout ça, pour voir voilà où ça va, d'avoir entendu ce qui est là, qu'est-ce que ça touche aussi, parce que je veux dire on a quand même des croyances qui peuvent être là depuis quelques générations, voire quelques millénaires. Donc voir qu'est-ce que ça éveille en vous.
Bien. Et là on écoute quoi maintenant?
Ah, Jarabi. C'est, tu vois, un truc beaucoup plus soft, là, on va rentrer un peu dans la douceur.
C'est-à-dire que l'excitation du début d'année, après, il faut un peu se...
Voilà, il faut se réguler. Donc, hein, c'est... Oui.
Voyage en Afrique avec Dejis Mbaba.
Ouais.
Djibodi,
le côté africain, c'est aussi pour moi, voilà, là on monte sur justement tout ce qui est la créativité, c'est le bassin, mais plus au niveau du deuxième chakra. Donc c'est aussi l'eau, tu vois, c'est le mouvement, c'est la fluidité, c'est les émotions. Alors on va continuer avec Louis, hein, qui aussi, bon bah voilà, dit avec ses mots sa forme de voir la genèse, mais bon, qui est pas quelque chose qu'il a inventé, hein. Alors il dit, mais lorsque vous condamnez le corps, vous condamnez les sens. Alors ça, c'est là où j'aime bien, parce que moi, comme je passe vraiment à chaque fois par le corps et que j'aime bien travailler avec les sens. Or, vos cinq sens sont les cinq fenêtres par lesquelles le monde extérieur pénètre à l'intérieur. Et c'est à travers ces cinq portes que l'âme se nourrit d'impressions. Donc si vous condamnez le corps, les sens, les impressions du monde, vous ne pouvez que crever d'inanition. Vous comprenez pourquoi c'est si grave ? Tous ces conditionnements continuent à graviter en vous, et c'est pour cela qu'il y a tant d'âmes en peine aujourd'hui, tant d'âmes dévitalisées. Et ça, je trouve ça vraiment juste de dire ça, voilà, pourquoi t'es pas bien, pourquoi tu te sens pas bien, il y a plein de gens qui sont en burn-out, qui sont en dépression, qui, voilà, ou à chaque fois que tu les vois, ça va, tout doux, enfin voilà, qui vont jamais bien, où il y a toujours un pète au casque, entre guillemets, mais c'est plutôt, voilà, moi je trouve que c'est beau de voir que c'est sens, si tu te fermes vers l'extérieur, si tu laisses pas l'extérieur, en fait, ce mouvement de va-et-vient, de cette communion entre l'intérieur et l'extérieur, et que tu te coupes de tes sens, bah tu te coupes du monde, tu te coupes de toi, tu te coupes de qui tu es. Alors il dit, le péché originel n'existe pas et la femme n'est pas une tentatrice. Merci Louis Sansa. Les religions ont fait de la femme, qui est la partie cachée du mystère de Dieu, un lieu de punition, un lieu de rejet, un lieu de péché. Rien de tout cela n'est vrai, rien de tout cela n'existe. Dieu n'a pas créé l'être humain pour le soumettre à la tentation et ensuite le punir. Dieu n'a pas créé le sexe et le désir pour avoir le plaisir de nous l'interdire. Tout cela est beaucoup trop tordu, trop perverse. Dieu n'est pas un bourreau. Dieu n'a jamais condamné la femme. Dieu aime. Dieu est pur amour. L'Église a manipulé les Écritures et les a déformées pour créer un canevas auquel on doit se soumettre sous peine d'excommunication. Un châtiment qui a terrifié les populations entières pendant des siècles. Ce châtiment nous effraie moins aujourd'hui, mais le canevas continue à agir. C'est de ce canevas dont nous sommes prisonniers. Et s'il existe une chute, elle est là, dans cette prison imaginaire dans laquelle on nous a enfermés. On s'est retrouvé dans un monde stérile, dans lequel Dieu a chassé l'homme et la femme parce qu'il avait mangé une pomme. Ce n'est pas possible de nos jours. Un croyant puisse continuer à avaler de pareilles sardines. Car ce canevas nous amène aussi, de façon insidieuse, à accepter la souffrance. Et aujourd'hui, l'être humain est tellement enraciné dans la souffrance qu'il croit que sans elle, il n'est rien. D'une part, parce qu'il ne connaît pas une autre religion de son existence, dans laquelle la souffrance est absente, et d'autre part, à cause de tous ces tocards en chef, de ces criminels qui, à travers les siècles, ont exalté la souffrance au point de vous la présenter comme l'unique chemin pour s'élever. Vous voyez, c'est cela le conditionnement mental, et c'est pour cela qu'il faut se laver de tout ce négatif morbide. Je voulais que vous ayez ce soir une autre version de votre origine, une version appartenant à un autre plan de connaissance, qui est celui des hermétistes chrétiens, des soufis, des chamans. Et en fait, c'est vrai que voilà, on a l'image de Jésus. Moi, quand je lis ça, ce qui me vient, c'est qu'on adore en fait quelqu'un qui est crucifié sur une croix dans la souffrance, quoi. Et c'est ça en fait qu'on a gardé. Mais il a tellement fait d'autres choses. Jésus a fait des choses magnifiques, la multiplication des pains, les guérisons des gens. Mais pourquoi on a gardé cette image de souffrance et de crucifixion? C'est quand même hallucinant. Donc on a ça ancré en nous de ah là là, il faut souffrir pour y arriver. Ça doit être dur. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans notre quotidien qui est ancré. Et donc, on est en janvier. Donc, les bonnes résolutions, ça peut être aussi de regarder ces systèmes de croyances qui sont ancrés depuis la petite enfance chez nous et de décider que, bah, stop, quoi. C'est ça, on a le choix. On a vraiment le choix quand on met la conscience de pouvoir décider d'arrêter, quoi. Alors, on va continuer avec...
Tout à fait.
Non, mais voilà, c'est pour moi, ça me parle tellement, ça, en fait, c'est tellement en résonance quand je lis des choses comme ça. C'est des choses que je voilà que je sens depuis très longtemps. Mais je veux dire voilà de voir avec quel verbe et quelle subtilité Luis Sansa les transmet à travers ses écrits. Bah je bois ses paroles. Alors je vous invite à rentrer dans un espace justement interne, à laisser un peu le monde à l'extérieur, le monde extérieur à l'extérieur, et puis revenir vraiment dans cet espace du cœur. On a commencé avec cette chanson sur le cœur en début d'émission, et de plonger sur chaque expiration un peu plus profondément dans cet espace du cœur. Voilà, laisse-toi descendre dans tes sensations, dans ta profondeur, dans cette toute petite partie de toi, dans cette divinité en toi. Et sur chaque inspire, tu peux imaginer que tu inspires dans ton cœur de la gratitude. Et que sur chaque expire, tu laisses cette gratitude s'expandre dans ton corps. À l'inspire, j'inspire de la gratitude pour l'être que je suis, pour le divin qui m'habite. Et à l'expire, je laisse cette gratitude s'expandre dans toutes les cellules de mon corps.
C'est presque la fin de l'émission, Sophie.
Oui, on
arrive. Cette émission de janvier 2024.
À la fin, donc laisser aussi cette respiration aller, puis sentez en fait, après cette petite visualisation, cette petite méditation, si tu sens une différence par rapport à ce qui t'entoure, peut-être regarde l'intensité des couleurs ou de la brillance de la nature autour de toi, le goût dans ta bouche. Voilà, quand tu inspires par le nez aussi, qu'est-ce que tu sens? De vraiment ouvrir ses sens, on se rend pas compte, mais on est, comme il disait au départ, c'est un mouvement, voilà, entre l'intérieur et l'extérieur, qui est là, entre chaque inspire, chaque expire, et dont on est parfois conscient, mais l'idéal, ça serait d'être conscient tout le temps de ce mouvement, de comment j'absorbe ce qui est à l'extérieur, et comment cela vient s'imprimer et me faire sentir à l'intérieur qui je suis. Voilà, alors merci Louis Sansa, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille fortement. Après trouver voilà aussi ce qui vous ressemble, mais essayez d'observer en tout cas ce que je peux vous souhaiter pour ce début d'année, c'est voilà d'observer toutes vos croyances limitantes. Et parce que les croyances c'est bien, c'est chouette, il y a des choses qui sont super, mais c'est les croyances limitantes que je trouve qui n'ont plus la nécessité d'être. Alors bon, on est tous avec des résolutions, j'arrête de boire, ou j'arrête de fumer, ou je perds 3 kilos. En fait, on s'en fout, regarde ce qui te limite. Regarde vraiment ce qui te limite, qui t'empêche de briller, d'être dans ta radiance, d'être dans ta puissance. Et puissance, ça veut pas dire écraser l'autre, ça veut dire aussi être. Donc qu'est-ce qui t'empêche d'être? Voilà, alors je vous souhaite ça pour ce mois de janvier, et puis on se retrouve prochainement dans les choix de Sambhava. Pour le mois de février.
Ah, et on va terminer avec une chanson qui s'appelle I Love Me, c'est ça?
Alors non, c'est pas celle-là que je voulais.
Je mais... suis désolé.
Non, allez, je vais mettre I Love Me, voilà. Ah, celle-là, alors on va faire bouger.
Drôle,
on va vous faire bouger un peu. Donc on a commencé avec je vais m'envoyer des fleurs et on va finir avec I Love Me.
Il faut.
Je m'aime. Hein.
Allez.
Dansons
bisous.
Sur cette chanson.
Et à dans un mois, Sophie.
Ouais, à très bientôt.
Salut.
I love me. I love me. I don't know about you, but baby, I love me.
Now everybody say,
oh, I love me. I love me.
They gon' say all kinds of things. They'll make jokes about my name. They gon' try to clip my wings, but I'm gon' fly. Try to play me like a game. I'm better too scared of the fame. But I can see it clear when I'm looking in the mirror saying, God, baby, just wait.
I love me. I love me. I don't know about you. But baby, I love me.
Now everybody say, I love all y'all, but I love me the most. Go raise a glass, give yourself a toast. I love all y'all, but I love me the most. I don't mean to brag, I don't mean to boast. I love all y'all,
but I love me.